Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Bertrand Gallimard Flavigny.
Bonjour, je suis le bibliologue. Sus ou conventionnel ? Lors d'une précédente chronique consacrée à Lavoisier, j'avais évoqué plusieurs conventionnels. Ceux-là sont les mal-aimés de l'histoire. Il est vrai qu'ils ont peu fait pour séduire les générations futures, entre le vote pour la mort de Louis XVI, la pacification de la Vendée et ce que l'on a appelé la terreur, ils ont laissé peu de place dans la mémoire collective. Nous devons pourtant à la Convention la fondation, notamment des écoles centrales, de l'école polytechnique, de l'école normale, la réorganisation du Muséum d'histoire naturelle et du Collège de France, l'organisation du Conservatoire des arts et métiers et enfin la création de l'Institut de France. Comme le souligna l'historien Louis Madelin, elle avait ainsi détruit et bâti, terrorisé et pacifié, atteint pour les uns l'extrémité du crime et pour les autres celle de la vertu. La Convention était composée de 749 députés. L'histoire n'a pas conservé un très bon souvenir de la plupart d'entre eux, surtout des 361 qui ont voté la mort de Louis XVI. À une majorité d'une voix. On a toujours dit que c'était celle du cousin Orléans. Celui-ci ne figure pas sous son nom dans la petite biographie conventionnelle ou tableau moral et raisonné qui fit paraître en 1815 le libraire Alexis Emery. Il y est nommé « Égalité ». Et l'auteur précise qu'il l'a fait en respect dû à son véritable nom et aux éminentes vertus de sa veuve. Cet auteur anonyme, que nous savons être Antoine-Joseph Rope de Bastin de Moulière, ne s'est pas contenté de dresser des portraits de conventionnels. Il a fait aussi œuvre de sociologie en notant que l'on rencontrait parmi eux des comtes, des curés, des marquis, des bouchers, des évêques, des comédiens, des médecins, des huissiers, des peintres, des moines, des barbiers de village, des gardes du corps, des apothicaires, des avocats, des gardeurs de laine, etc., etc. Bref, une bonne représentation des Français. Que sont-ils devenus tous ces conventionnels ? C'est à cet instant que le sous-titre de l'étude, Tableau moral et raisonné, intervient. 56, périr sur l'échafaud. 27, de morts violentes, extraordinaires et non naturelles. 15, dont 13 ont voté la mort, peut-être considérés comme fous, tant par leurs paroles et leurs écrits que par leur conduite. 44, parmi lesquels un seul prêtre, eurent le courage, malgré les menaces, d'émettre librement leur opinion modérée. Ces statistiques sont incomplètes d'un point. Hérode Séchelles, dont la biographie est omise dans le livre, a été guillotiné le 5 avril 1794. Cet oubli a été réparé dans la deuxième édition, paru l'année suivante en 1816, toujours chez le même éditeur. Il avait conservé, comme indiqué sur la page du titre en frontispice, une jolie gravure, représentant une jeune femme, lisant, appuyée contre un socle et le pied posé sur une faux. La Convention a laissé des traces dans les esprits des générations suivantes et bon nombre d'auteurs s'y sont employés afin qu'ils n'oublient pas ses méfaits. Cela relevait d'un simple devoir d'éducation. Ainsi, Claude Dudouis de Tourville était en 1824 en classe de 3e au collège de Coutances. Il était plutôt bon élève, surtout en grec, puisque le jour des prix, qui se déroula le 12 août, il reçut en récompense de son prix de version le mémorial sur la Révolution française, ses causes, ses promesses et ses résultats. Le volume sortait tout droit de l'imprimerie ecclésiastique de Beaucé-Rustan, au Thé Palatin, près de Saint-Sulpice. Le livre était bien relié, mais lourd. Il réunit, sur 650 pages, outre le mémorial proprement dit, trois préfaces, une introduction tirée de la politique sacrée de Bossuet, suivie d'un supplément sur le sort des principaux impies, usurpateurs, factieux, etc., de l'an 40 à l'an 1823. Nous sommes en face d'un véritable traité de l'impiété qui, selon l'auteur, perdra celui qui s'y livre. Cet auteur-là, Toussaint Félix Joly, était chanoine régulier de la Congrégation de France et ancien professeur du séminaire de Troyes. Il avait l'habitude du mémorial, puisqu'il en composa un autre consacré à l'Écriture sainte, sous-titré « Manuel des vérités de salut », également imprimé par Beaucé-Rustan en 1824-1826 en deux volumes. Son mémorial sur la Révolution française fut imprimé en 1828 en deux volumes par Bricon et connu la même année une version abrégée, concoctée par M. Desgauvillez pour le libraire Méquignon-Avard. Nous avons donné à cet ouvrage un nom de mémorial parce que notre but est de rappeler aux personnes plus âgées les causes, les promesses, ainsi que les résultats de la Révolution, et d'en instruire celles qui, par leur âge, n'ont pu en être témoins, note en tête de la première préface le chanoine. Son étude l'a conduit à démontrer que la Révolution a offert quatre caractères distinctifs: conjuration philosophique générale, proclamation publique de l'athéisme, volonté de renverser non seul le trône de France en égorgeant son roi et une partie des princes et princesses, ainsi que leurs fidèles serviteurs, mais tous les trônes sans excepté un seul. Et enfin, rejet du nom même de la religion, d'une loi proposée par le roi très chrétien et de la législation de 25 millions de Français. Le père Joly, malgré ses faibles connaissances, c'est lui qui l'affirme, a constaté que ces caractères monstrueux ne s'étaient jamais rencontrés de cette manière avant le XVIIIe siècle. Comment une telle chose avait-elle été rendue possible? Ces caractères avaient été enfantés par la longue et perpétuelle conjuration de l'impiété philosophique de ce siècle. Tous les philosophes, citation à l'appui, comme ensuite tous les événements que se déroulèrent depuis 1789 jusqu'en 1815, comme le sort réservé aux révolutionnaires, sont passés au crible par notre bon chanoine, qui se garde toujours d'entrer en polémique. Dans un chapitre consacré aux 82 noms de factions et de partis, il ne peut s'empêcher pourtant de donner la définition des « us-culottes », c'est-à-dire noms donnés aux députés de la Convention qui ne faisaient autre chose que se lever et s'asseoir à la volonté des dominateurs, lâche complaisance par laquelle ils les aidaient à rendre tant de décrets sanguinaires et atroces. Et ce qui lui permet, au moment d'évoquer Louis XVI, de rappeler que la Constituante l'avait proclamé le restaurateur de la liberté. »